Je le vois congolais avec tous les côtés. Bonsoir et bon début de semaine à tous. C'est Frédéric Santé, la sécurité à l'est de la RDC. Ce week-end, d'après vous, le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été attaqué, faisant 2 morts et 3 blessés. Et au-dessus de Kivu, 4 villages ont été attaqués, bilan 1 mort. Toutes ces attaques sont attribuées aux combattants FDLR. Comment expliquer la persistance et l'insécurité malgré la multiplicité des opérations militaires pour ramener la paix dans cette partie du pays? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 9 mai 2011. Et pour en parler, je reçois dans le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est en ligne. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Mohamed Boulay, député national de l'opposition et président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, il est général à la retraite. Il est avec nous dans ce studio. Mohamed Boulay, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Jean-Paul Lumbulumbu, avocat au barreau près la cour d'appel en RDC et coordonnateur national du réseau d'action citoyenne pour la démocratie raciste, plateforme de plus de 113 organisations de la société civile de l'Est. Il est également en ligne. Jean-Paul Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vos questions et réactions, nous les avons déjà. C'est le cas de Gérard Kazingoukou de Beni au Nord Kivu. Je suis tenté de croire que la sécurité à l'est du Congo est un fond de commerce pour certaines personnalités congolaises avec leurs complices. Comment certaines autorités utilisent-elles des termes rassurants comme les rebelles ont été neutralisés ou anéantis dans leurs différentes opérations à l'est pendant que la situation demeure statu quo? Jean-Paul de Kisangani en province orientale, les opérations contre les FDLR ne réussiront jamais tant que notre gouvernement ne négociera pas avec eux pour les faire partir. Ils commettent toutes ces exactions pour confirmer leur présence. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et à travers le monde pour www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Nord Kivu, l'insécurité est montée d'un cran ces derniers jours à Rutshuru avec l'absence des militaires FARDC dans plusieurs localités de ce territoire. Au moins 10 des cas d'attaques FDLR ont été signalés depuis le début de ce mois. Le dernier en date est celui contre le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur, Macha Komamba. C'était samedi dernier à Katigourou. Le gouverneur du Nord Kivu se dit préoccupé. Julien Paluku vient d'installer provisoirement son quartier général à Rutshuru Centre afin de suivre de près la situation. Le point avec vous, Sifa Maguru.
Parmi les 10 des cas signalés depuis le début de ce mois, on note cette attaque sur le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur, Macha Komamba, samedi dernier à Rutshuru, occasionnant la mort de 2 personnes. Dans la même nuit, une autre personne a été tuée en Gwenda, toujours par les FDLR, et la veille, c'est à Rukora, sur l'axe Bunagana, où ce rebelle a tué un habitant. La semaine dernière, c'est le territoire de Masisi, où l'on a enregistré la tuerie de 9 personnes, parmi lesquelles un pasteur d'une église locale et un élément de la police nationale congolaise. Toutes ces personnes ont été tuées par les FDLR dans le village Umura de Kazunga, en groupement Yamaboko 1. Plusieurs localités de ce secteur du sud de Masisi ont été abandonnées par les habitants depuis ces attaques. En début de la même semaine dernière, c'est encore à Kiwanja, à Rutshuru, où un groupe de FDLR a attaqué la cité. Plusieurs commerces ont été pillés et quelques personnes blessées au cours de cette attaque. Kiwanja est à plus de 70 km au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Les sources militaires ont parlé d'une opération de représailles menée par les FDLR après que ce dernier ait subi une lourde perte lors des opérations lancées contre eux à l'ouest de Kiwanja. C'est de nouvelles opérations militaires appelées Douankia qui sont concrètement menées avec la MONUSCO contre les FDLR dans cette partie de Rutshuru. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Merci Sifa Maguru pour ce reportage. De l'autre côté, au sud de Kivu, 4 villages du groupe Guiran du Katana en territoire de Kabaré ont fait l'objet d'un pillage systématique lors d'une attaque que la société civile attribue aux combattants FDLR. Cela s'est passé dans la nuit d'hier à ce lundi, bilan une personne tuée, 4 blessés et 17 personnes emportées dans la forêt. Les FRDC ont réussi à libérer 4 personnes et ont récupéré quelques biens entre les mains des assaillants. Julien Paloukou, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment expliquer la persistance et l'insécurité malgré la multiplicité des opérations militaires pour amener la paix dans cette partie du pays?
Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais commencer par saluer tous les compatriotes avec lesquels nous allons débattre de la question. Je confirme effectivement que depuis un certain temps, il y a cette recrudescence que vous venez d'évoquer à travers les reportages de vos journalistes, particulièrement au Nord Kivu comme au Sud Kivu. Mais avant d'aborder la question, je voudrais d'abord donner les missions des opérations qui avaient été menées au Nord comme au Sud Kivu. Ces opérations avaient une seule mission, celle de devoir désorganiser, déstabiliser et désarticuler les forces des FDLR, mais également de les évacuer des grandes agglomérations qu'ils tenaient. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'agglomérations qui étaient tenues par ces FDLR et dans lesquelles ils avaient fait presque la loi entière, où ils avaient une administration, ils avaient des écoles, ils avaient des universités. Au moins avec ces opérations, cette mission a réussi. La seconde mission, c'est que les opérations visait à couper les circuits d'approvisionnement des FDLR et tous les groupes armés, à savoir les carrés miniers qu'ils occupaient, particulièrement à Oninga, à Fatoua, à Omate, à Bissier et partout ailleurs dans les territoires de Chabunda au sud du Kivu. Mais au moins, on a réussi à évacuer tous ces groupes armés dans les carrés miniers, ce qui a réduit leur possibilité de devoir être beaucoup plus opérationnel avec des moyens financiers. Maintenant, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est quoi? C'est effectivement, après cette désorganisation de leur base militaire, c'est dont nous saluons le travail abattu par les forces armées de la République, évidemment, il est resté maintenant des groupuscules qui opèrent à partir des lieux qui ne constituent plus des états-majors réserves de l'air. C'est ainsi que, par exemple, 5 à 10 personnes, à 10 FDLR quittent tel milieu pour s'infiltrer dans la cité de Kiwanja et ils commettent des exactions. D'ailleurs, je vous rappelle que je suis présentement à Rutshuru où je vais suivre provisoirement la situation ici sur le terrain. Lorsque j'ai réuni déjà la notabilité locale, il a été établi que les opérations qui se sont passées à Kiwanja, c'était une sorte de revanche après que les militaires aient capturé 5 FDLR qui sont venus opérer dans ce territoire de Rutshuru. Ils sont venus en revanche pour essayer un peu de venger leurs collègues qui sont déjà aux arrêts et qui sont détenus par nos forces armées. Donc vous comprenez que c'est maintenant des actions de déstabilisation qui se passent à gauche à droite et qui, à vrai dire, sont en train de démontrer à la face du monde que le travail n'a pas été fait par les forces armées, alors que toutes les grandes bases, et là je dois le confirmer, ont été détruites au jour d'aujourd'hui, aussi bien dans le nord comme dans le sud.
Alors, monsieur le gouverneur, vous dites que la mission c'était de désorganiser, déstabiliser et évacuer ces rebelles des grandes agglomérations. Pourtant, ces groupes restent toujours actifs. Comment on peut expliquer cela? Donc, vous avez failli à votre mission?
Non, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis présentement à Rutshuru. Parce que il y a d'autres hypothèses qui démontrent que qu'il s'agisse des FDLR comme des EDF Nalou, il y a une sorte de complicité qui s'était établie. Parce que lorsque ces gens opéraient, par exemple, du commerce, ils ne le faisaient pas seuls. Ils le faisaient avec certaines personnalités locales. Quand vous prenez par exemple les EDF Nalou du côté de Beni, il y a 60% des locaux qui sont appelés EDF alors qu'ils ne sont pas ougandais. Quand vous prenez les FDLR au niveau de Rutshuru de Masisi, il y a une bonne partie des FDLR qui sont véritablement des Rwandais et une autre partie qui est constituée des enfants égarés qui constituent en fait leur guide dans les opérations qu'ils sont en train de mener. Alors ma mission à Rutshuru, c'est que en fait, nous devons amener toute la population à devoir accompagner les forces armées pour que nous puissions déceler les collaborateurs locaux qui sont en train de contribuer à ce que les vies humaines soient perdues au jour le jour, Parce que si on arrive à désorganiser les collaborateurs locaux d'avec ces forces étrangères, nous estimons qu'ils vont rester seuls et évidemment, nous allons identifier les véritables problèmes et l'évacuer totalement. Voilà la mission pour laquelle je me trouve particulièrement à Rutshuru, pour une sensibilisation dans tous les sens. Et je viens d'ailleurs d'avoir des réunions avec tous les chefs coutumiers à la tête desquels moi, Mingueze, et tous les membres du comité de sécurité, pour ce genre de sensibilisation, pour que toute la population puisse s'impliquer de manière à ce qu'il ne soit plus établi un lien entre la population locale et les êtres de l'air qui rendaient à longueur des journées nos villages à travers la province et partout ailleurs.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a cet auditeur de Kinshasa, Crispin, qui dit ceci. Monsieur le gouverneur a installé son quartier général à Rutshuru parce qu'on a failli s'en prendre au ministre Machako, alors que tous les jours à Rutshuru, il y a des populations qui meurent plutôt suite à cette insécurité des FDLR.
Non, je pense qu'il n'a pas raison. Il y a quelques temps, je pense que vous l'aviez suivi, j'étais à Walikale où j'avais fait 4 jours parce qu'ils avaient commencé l'itinérance dans tous les territoires qui faisaient problème. J'ai commencé par Walikale, mais le jour où je devais aller à Rutshuru, j'ai été invité à une réunion à New York. C'est ce qui a fait que je ne vienne pas à Rutshuru. Pour prouver que j'avais un programme de venir à Rutshuru, c'est que je ne suis arrivé à Goma que le samedi soir, et aujourd'hui lundi, je ne suis pas allé au bureau, je suis venu établir mon bureau à Rutshuru. Donc, c'est un programme qui avait déjà été établi et qui avait commencé par le territoire de Walikale. Donc, c'est une suite d'un programme de calendrier que j'avais déjà préétabli. Bien évidemment, nous devons regretter ce qui est arrivé à son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Nous ne disons pas que toutes les autres vies humaines que nous avons perdues ont une moindre valeur. Tous les sangs des Nord-Kivuciens, nous devons les pleurer, nous devons les regretter. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, je me suis en quelque sorte
allé
pour dire les gens qui meurent, ils me ressemblent, ils ont le sang comme les miens. Je dois y aller pour qu'ensemble, nous puissions chercher des solutions durables et voir comment extirper ces virus qui est en train d'endeuiller l'ensemble des populations de Rutshuru.
Merci, monsieur le gouverneur. Mohamed Boulé, vous êtes député national de l'opposition et président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes général à la retraite. Comment vous vous expliquez le fait que malgré les opérations militaires menées, la sécurité s'accroît toujours à l'est du pays?
Madame, je voudrais d'abord porter une précision. Je suis le rapporteur de la commission défense et sécurité.
Merci pour la précision.
Je viens de suivre, monsieur le gouverneur, et je suis heureux. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toutes ces familles éprouvées par ces morts-là inattendues dont on n'en a plus besoin. Je suis également heureux de suivre le gouverneur de la province, lui qui gère une province à vive tension durant cette mandature. À l'entendre parler, je me rends compte qu'il y a de sérieux problèmes dans le domaine des renseignements. Et je pourrais même dire qu'il y a un dysfonctionnement. Le gouverneur, en déplaçant son quartier général, il parle à la fois de sensibiliser la population, en même temps, moi je considère ça dans le cadre des relations civilo-militaires, il devait s'entourer de ceux qui gèrent ces opérations et pouvoir disposer des informations nécessaires. Mais c'est au gouverneur des provinces qui revient de faire chaque jour, je dis bien chaque jour, il y a un texte réglementaire à ce sujet en ce qui concerne l'état du territoire. Tous les gouverneurs de province sont censés chaque jour transmettre au ministère de l'Intérieur les rapports sur l'état du territoire, où ils doivent donner les éléments nécessaires pour permettre à ce qu'on puisse monter des opérations militaires, soit-elles. Mais je suis étonné. Les groupes auxquels on fait face, ce sont des petits groupes. C'est une petite guerre. Ils mènent des petites guerres. C'est la guérilla, ça veut dire petite guerre, où des groupes de 5 personnes, 6 personnes frappent ici et là. Ils maîtrisent le terrain. J'ai l'impression, je suis ahuri d'apprendre du gouverneur, mais il n'est pas spécialiste en la matière, pour dire la seule mission qu'on ait donnée à ceux qui tuent nos frères, c'est de désorganiser, c'est de déstabiliser. Ça ne se passe pas comme ça. Une mission. Les gens des groupes armés qui continuent à tuer dans notre pays, la mission serait d'aller les traquer, les tuer et capturer le grand nombre possible pour répondre de leurs actes. Ce n'est pas seulement de les disperser et leur donner l'occasion en petits groupes. Justement, la guérilla, c'est ça. Ils doivent opérer en petits groupes, attaquer là où ils peuvent. Vous comprenez, Kiwanja, moi qui vous parle, j'étais, avant de quitter l'armée, nous sommes en 85-86 avec le général Kaloumé, au G3, je connais, nous avons fait ce pays, nous avons pris le véhicule du Ziro jusqu'à Goma, par route, parce qu'il y avait des situations préoccupantes dans nos frontières, et avec les braconniers, et on trouvait des solutions. Lorsqu'un gouverneur se déplace, lorsqu'un quartier général, que ce soit de l'armée, se déplace, c'est la population doit s'attendre que la paix revienne. Et donc, ce qui se fait maintenant, je suis en train de m'interroger, est-ce qu'on connaît ce qu'on doit faire? Parce qu'on ne peut pas aller désorganiser, disperser les gens pour dire, quitter ces lieux, aller là, et ils se réorganisent en petits groupes et continuer à tuer. Et donc, je crois qu'il y a des sérieux problèmes. Pour traquer ces éléments, on doit avoir les renseignements. Les renseignements, ce n'est pas seulement les éléments de l'armée. C'est aussi ces populations-là qui sont contraires de se déplacer massivement contre leur gré, et d'autres qui se font prisonniers, d'autres qui se font tuer. Mais lorsque un ministre, un membre du gouvernement central se déplace dans une province donnée, il doit lui être assuré la sécurité nécessaire pour que des choses comme ça ne puissent pas être vécues.
Alors, général Mohamed Boune, est-ce qu'on peut dire que si on n'arrive pas à maîtriser ce groupe, c'est parce que la stratégie utilisée par le gouvernement était mauvaise?
Mais tout à fait. Mais moi, je venais de lire tout à l'heure. Mais si on n'a pas les renseignements, tout ça, il faudrait que chacun fasse son travail. L'armée a sa part de responsabilité à faire. La police aussi, et la population civile, qui sont des sources inconstantes et des sources ouvertes sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir des éléments. La société civile organisée, ici et là, on doit arriver pour savoir qu'est-ce qui se passe. Kiwanja, ce n'est pas la première fois que nous entendions parler, que nous déplorions des morts. Or, autrefois, les gens passaient en cortège sans être attaqués. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À partir des états de territoire, l'état de territoire, journellement, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le personnel qualifié pour faire des analyses face à une situation donnée pour pouvoir localiser avec exactitude et comprendre la tactique de ces gens.
Alors on retient, Mohamed Boule, pour vous que ce problème est dû au problème de dysfonctionnement au sein de service de renseignement.
Je ne cesserai de confirmer cela.
Merci Mohamed Boule. Jean-Paul Lumbu, vous êtes avocat au barreau près de la Cour d'appel en RDC et coordonnateur national du réseau d'action citoyenne pour la démocratie. RACID, c'est une plateforme de plus de 113 organisations de la société civile. Vous êtes sur place là-bas, vous recevez souvent sûrement des rapports de la population sur l'insécurité. Comment vous pouvez expliquer cette recrudescence de l'insécurité?
Avant de répondre à la question, qu'il me soit d'abord permis de saluer la présence de son Excellence Monsieur le Gouverneur dans le territoire de Rutshuru, parce qu'à double titre, cette présence permet de renforcer ou bien de réarmer moralement la population du territoire de Rutshuru qui depuis un certain temps se trouve être victime des actes barbares des mercenaires, mais aussi de certains fardistes incontrôlés. Deuxièmement, nous pensons que cette présence dans le territoire de Rutshuru est une preuve de la volonté manifeste du gouvernement provincial du Nord Kivu de trouver une solution durable à la question de la présence des mercenaires dans le territoire de Rutshuru. Mais enfin, il faut reconnaître que la présence du gouverneur dans le territoire de Rutshuru se trouve être un véritable défi pour le retour de la paix et la sécurité dans cette partie du territoire. En ce qui concerne l'explication de cette recrudescence de l'insécurité, particulièrement dans cette partie de la province du Nord Kivu, à mon avis, je pense qu'il y a d'abord eu un très très mauvais diagnostic fait par le gouvernement en ce qui concerne les conséquences de la présence des FDLR en mer du Congo. Et par conséquent, conséquence, parce qu'il y a eu un très mauvais diagnostic, la conséquence, c'est que la thérapeutique a été contre nature, inadaptée et inefficace. Nous sommes partis du programme DDRR, programme Amani, Kimia 1, Kimia 2, aujourd'hui Tarek, la multiplicité de ces différentes tentatives du gouvernement pour restaurer la paix, la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo sont certes à saluer, mais il faut reconnaître que ce sont des stratégies qui ont démontré leurs faiblesses et je pense que le gouvernement devrait essayer de réfléchir comment changer les stratégies. On a parlé par exemple de la relocalisation des FDLR dans le Katanga. Je me rappelle que dans l'une des émissions diffusées sur Radio Okapi, on s'est empoigné avec le porte-parole du gouvernement sur l'inefficacité. Nous avons démontré encore une fois l'inefficacité de cette solution de la délocalisation des FDLR, mais le gouvernement n'a pas voulu nous entendre de cette oreille-là. Nous pensons tout simplement que cette recrudescence est expliquée par un mauvais diagnostic du gouvernement quant à la question des FDLR, une mauvaise thérapeutique, mais aussi il y a cette façon-là du gouvernement de minimiser la capacité de nuisance des FDLR. Vous allez entendre dans la bouche de la plupart des responsables du gouvernement, que ce soit au niveau du gouvernement central ou du gouvernement provincial, des termes tels que ce que l'honorable Mohamed Boulé a utilisé tout de suite là, on a neutralisé les groupes des FDLR. Il ne reste que des petits groupes résiduels des FDLR. Évidemment, ce sont ces petits groupes-là résiduels qui continuent à semer la panique, à tuer, à piller, parce que je ne peux pas comprendre que du 2 au 9 mai, qu'il puisse y avoir 4 attaques des FDLR dans le territoire de Rutshuru, alors que des programmes tels que le programme Tarek, Amani, Neo existent. Nous savons qu'il y a multiplicité des opérations militaires dans ces parties déclarées rouges. À l'heure où je vous parle, vers 18h par exemple, il y a eu effectivement des balles dans la localité de Kaunga. C'est à 7 km de là où se trouve le gouverneur de province. Je ne sais pas comprendre que pendant que l'autorité provinciale est là, qu'il y ait effectivement des balles sans qu'on puisse identifier quelle est peut-être la raison de cet état des choses. Donc, nous pensons en bref que le gouvernement a très mal abordé la question des FDLR. Mais aussi, il faudrait reconnaître que la population congolaise est aujourd'hui victime de son hospitalité parce que lorsque les FDLR ou les réfugiés rwandais entraient en mer des Congo en 1994 avec des armes, la communauté internationale était témoin. Aujourd'hui, la population congolaise est victime de son hospitalité, victime de de l'expression de sa solidarité à la population du Rwanda. Je pense que quelque part également, il y a une mauvaise stratégie qui a été adoptée par la communauté internationale en matière de réduction ou bien de solution en ce qui concerne la présence des FDLR à travers le Congo.
Merci Jean-Paul Lumbulumbu, Julien Paluku. Réaction à tout ce que vous venez d'entendre, le gouvernement a très mal abordé la question des FDLR. Pour Mohamed Boulé, c'est inconcevable de dire que la mission était juste de désorganiser, déstabiliser et évacuer ces rebelles. Votre réaction?
Oui, c'est que peut-être il n'a pas bien compris. Je sais qu'il est militaire, où il a été, il a tous les termes utilisés, mais évidemment, lorsqu'il définissait les missions, lorsqu'on évacue quelqu'un d'une grande agglomération, c'est pour aller les traquer définitivement et les suivre dans sa poursuite. C'est exactement ce que je voulais traduire par cette explication. On n'a pas seulement évacué et déstabilisé, on en a tué des milliers, on en a capturé. Il y a eu des armes qui ont été capturées et qui ont été portées à la connaissance du public. Donc je pense que la mission que j'avais évoquée au début, c'était une mission effectivement, d'abord, c'est de voir les concentrer dans des lieux localisés et de devoir les traquer dans ces lieux localisés. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier Maître Lumbulumbu pour le réconfort qu'il nous accorde quand nous sommes dans ce milieu où les vies humaines sont perdues chaque jour. Mais tous les deux, je voudrais quand même évoquer une chose, c'est qu'ils sont en train de faire des arguments comme si les FDLR étaient des forces amies, comme si nous faisons un jeu avec les FDLR. Les FDLR sont des forces ennemies en force de la République.
Mais vous minimisez la capacité
une attaque qui a eu lieu dans une localité, on la perçoit comme si elle a été souhaitée par le gouvernement. C'est des forces ennemies qui tout le temps veulent effectivement nous déstabiliser dans les stratégies que nous sommes en train de monter.
Et vous, pour minimiser les lieux, c'est le gouverneur.
Nous pas ici les lieux, oui.
Et pour minimiser, apparemment, selon Maître Lumbulumbu, le gouvernement minimise la capacité de nuisance des FDLR. Lorsque je prends par exemple...
On peut avoir une erreur d'appréciation. Je peux être d'accord avec lui, on peut avoir une erreur d'appréciation. Mais de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de considérer les FDLR comme des fausses amies. Lorsque nous avions des centaines d'États dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, qui ne peut pas aujourd'hui reconnaître que tous ces camps, aussi bien à Rutshuru, à Masisi, qu'à Walikale, n'existent plus. Si aujourd'hui ces petits groupes sont en train de revenir, c'est en fait parce qu'ils ne savent plus vivre comme ils le faisaient, comme ils l'étaient avant. C'est ça la raison principale. Sinon, tous les habitants du Nord Kivu seront d'accord avec moi qu'à Rutshuru ici, du côté de Kaunga, du côté de Nyamilima, que dans les Masisi, il y avait des bases, il y avait des écoles, il y avait même des universités. Toutes ces structures n'existent plus. Ça montre effectivement qu'il y a un travail qui a été fait, mais que le travail doit se poursuivre. Nous n'avons pas dit que nous devons arrêter le travail. Vous savez que s'il y a recrudescence, c'est parce qu'effectivement, il y a eu aussi des critiques sur notre armée par rapport à tout ce que l'opinion fait. Et le commandant suprême a décidé effectivement qu'on puisse regrouper les forces armées pour qu'ils subissent une formation. C'est la raison d'être des régiments qui sont constitués aujourd'hui dans les camps de Rumangabo et partout ailleurs. Et effectivement, les petits groupes qui sont restés dans les maquis, je pense qu'ils ont eu également des informations qui aident le regroupement de nos militaires. Ils profitent de cette absence momentanée dans les liens X ou Y pour commencer à semer la désolation. Mais je ne dois pas révéler ici les stratégies qui peuvent maintenant être mises à place pour que l'on soit face à ces grands problèmes qui sont en train d'endeuiller la population. Donc j'estime que nous devrions être encouragés dans le travail que nous sommes en train de faire, parce qu'à la radio, au CAPI, ils ne sont pas les lieux que nous dévoilions les stratégies militaires qui devraient être mises en place demain après demain, comme quand je suis présent dans les territoires de Rutshuru. Nous voudrions que ma présence ici, comme l'a dit M. Lumbulumbu, serve à quelque chose et qu'il y ait des résultats palpables auxquels on va assister après mon séjour au chef des territoires de Rutshuru.
Alors, Julien Saloukou, nous allons prendre une réaction pour vous qui nous vient de Salima ou Maniema. Vous allez y répondre brièvement.
Pour l'histoire de langue de Kalima Maniema, je pense que notre gouvernement est en grande partie responsable des insécurités grandissantes à travers le pays, notamment à l'Est, car non seulement il n'a pas bien planifié et mené les différentes opérations militaires contre les groupes armés, mais il n'a pas non plus réussi à réorganiser l'armée ce qui est déférent, car à l'échec du social s'ajoute celui de la sécurisation des Congolais. Et puis, il serait mieux de l'état politique d'armée.
Et Julien Paloukou.
Vous savez, quand on n'est pas dans une chose, on croit que c'est facile. Hein. Quand on dit qu'on n'a pas réussi à planifier, Mohamed Boulay a été un des grands généraux, je ne pense pas qu'ouvertement on dise qu'au sein de nos forces armées, il y a une absence de planification. Il y a des planifications, mais de toute façon, toutes les planifications n'amènent pas aux objectifs souhaités. Il y a toujours dans une planification ce qu'on appelle des conditions critiques qui peuvent s'ériger en obstacle lors des atteintes des objectifs. Et ces éléments qu'on est en train de connaître, c'est des conditions critiques, des contraintes dans les chemins de parcours. Dire qu'on ne sait pas réorganiser nos forces, alors qu'hier on avait 23 groupes armés au nord et au sud de vous, c'est quand même méconnaître les efforts du commandant suprême des forces armées, de l'état-major général et de tout le commandement opérationnel sur le terrain.
Merci,
je pense que les cas qui se passent aujourd'hui nous interpellent effectivement et nous demandent à devoir réorienter un certain nombre d'actions vers des cibles bien pointues pour qu'on atteigne des objectifs. Donc, nier que rien n'a été fait, ce serait quand même malheureux et malhonnête pour les intellectuels congolais.
Merci Julien Paloukou. Mohamed Boulay, on parle aussi de l'absence des militaires comme une des causes de cette recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays, dans certains territoires, dans plusieurs localités, je dirais, du territoire de Rutshuru.
Oui, le gouverneur venait de le dire tout à l'heure, pour dire qu'il y a, dans le cadre de la réforme, donc la restructuration, vous savez que lorsqu'il y a des opérations, et les militaires qui font très longtemps dans des opérations, dans des zones comme celle-là, nécessitent un réarmement moral. Je comprends, je ne pourrais pas dire plus, parce que je sais comment ça peut se faire, mais à ce moment-là, c'est ce qui fait maintenant entendre les gouverneurs, c'est le fait de déplacer les militaires pour les restructurer, les réorganiser, qui profite, qui laisse maintenant des vides pour que ces éléments-là, des FDLR, puissent se réoccuper des endroits qui sont censés connaître qu'il n'y a aucune force qui occupe effectivement. Donc, je comprends très bien, mais il faudrait accélérer ces réformes. Ce n'est pas de l'apanage du gouverneur, et donc, c'est au niveau du haut commandement militaire et au niveau du Conseil supérieur de la défense, et nous faisons quoi que dans le cas de ces réformes, parce qu'il y a encore des lois qui sont attendues nécessairement pour permettre la mise en chantier de toutes ces réformes. Mais cela ne peut pas nous empêcher de traquer ces FDLR parce qu'ils continuent à tuer chaque jour. Donc je crois que même s'il y a des opérations de restructuration, de réarmement ou de mise en niveau, on doit nécessairement remplacer, mettre des unités capables de faire face à un tas de situations comme celle-là que nous déplorons.
Alors, Mohamed Boulay, quel bilan vous dressez de toutes les opérations menées pour neutraliser ces FDLR? Le gouverneur vient de dire qu'il faut quand même reconnaître les efforts du gouvernement pour mettre fin à ce phénomène FDLR.
Le gouverneur vient de dire, il vient de donner un chiffre qui m'inquiète, 23 groupes armés dans cette partie-là. Et alors, rappelez-vous, madame, pendant la transition, il y a eu beaucoup d'apports. Et beaucoup de ces groupes armés sont venus signer, donc s'engager officiellement par des signatures, et les dossiers existent. Si aujourd'hui, parmi ces groupes armés, les 23-là, qu'on trouve ceux qui, hier, s'étaient réellement engagés pour laisser de côté ces genres de combats, mais il y a un problème. Le gouverneur a même dit ici qu'il y a des citoyens congolais ou des étrangers qui sont mêlés dans cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on ceux qui sont chargés d'éveiller, de rechercher les infractions à la loi? Parce que créer ou favoriser la création des groupes armés, c'est condamné, c'est la trahison. Mais qu'est-ce qu'on ceux qui sont chargés de rechercher les infractions à la loi pour traquer ces genres de citoyens ou des étrangers qui s'adonnent à ce type de manœuvre?
Merci Mohamed Boulay. En réaction à cette recrudescence de la sécurité à l'est de la RDC, la MONUSCO réaffirme son soutien au FRDC dans les opérations conjointes visant à mettre hors d'état de nuire les groupes armés conformément à son mandat. On écoute le lieutenant-colonel Gay, commandant des opérations de la MONUSCO, au micro d'Alain Vong.
La MONUSCO, conformément à son mandat, continue à mener des opérations conjointes avec le FARDC pour stabiliser principalement la zone est de la RDC. Comme vous le savez, c'est une zone qui est notre zone d'effort où nous avons pratiquement près de 70% de nos effectifs déployés à l'est. Mais comment vous expliquez que ce mandat est de protéger la population civile, mais en même temps, il y a par exemple des FDLR qui continuent à faire des exactions au sein de cette population?
Je suis très d'accord avec vous. Il est vrai que c'est ça où se situe toute la complexité de notre mandat et des opérations que nous menons. Nous faisons des efforts particuliers pour essayer de nous déployer le plus proche possible des zones vulnérables.
Apparemment sans résultat concret.
Je soutiendrai plutôt le contraire. Nous avons eu, par exemple, depuis le début des opérations à Minimeo, que nous avons lancé avec le FARDC le 1er janvier 2010, assurer une protection vraiment très, très satisfaisante des populations. Nous avons pu, avec le FARDC, arriver à réduire les capacités opérationnelles des FDLR à environ 80%.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, réaction par rapport au soutien de la MONUSCO FRDC dans les opérations visant à mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui opèrent dans cette partie, disons, à l'est du pays.
Nous avons toujours salué les efforts déjà assez louables de la communauté internationale à travers la MONUSCO dans le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais il faut tout de même souligner qu'à notre avis, ce soutien n'est pas encore suffisant. Je pense que l'appui que la MONUSCO donne jusque-là aux forces armées de la République démocratique du Congo devrait être majoré en termes d'hommes, chiffres et en termes de matériel. L'on ne devrait pas seulement se limiter à former et à déployer, mais également il aurait été important que la multiplication ou bien l'augmentation du personnel militaire de la MONUSCO à l'est de la RDC puisse avoir un impact visible sur le plan de la sécurité. Vous allez constater que depuis un certain temps, c'est même pendant la période où le mandat de la MONUC a changé à MONUSCO et qu'on a déployé un contingent supplémentaire pour ajouter le nombre de militaires, qu'on constate de plus en plus les représailles effectuées par les FDLR. Alors on se pose la question, quel est l'impact de cette augmentation des forces militaires de la MONUC à l'est du pays? Quel est l'impact de cet appui, de ce soutien que la MONUSCO apporte aux FARDC? Parce que pour la population civile, tant que la sécurité et la paix ne constituent pas des réalités, l'évaluation des soutiens de la MONUSCO aux FARDC, c'est une évaluation qui sera toujours négative. Et ça, c'est pour la population. Si au niveau du gouvernement, au niveau peut-être de la société civile, on peut apprécier tout de même cet appui, mais pour cette population civile-là qui est victime des exactions de l'air, victime de viols, de pillages, l'impact de cet appui, de ce soutien que la MONUSCO apporte aux FARDC est encore à revoir et à revaloriser.
Merci, Compteur Lumbulumbu, Julien Paloukou. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au soutien de la MONUSCO au FARDC, par rapport aux opérations conjointes que vous menez pour neutraliser ces FDLR?
Oui, je ne peux pas me dédier. Depuis longtemps, j'ai toujours reconnu le travail réalisé par la MONUSCO, la MONUC au départ, aujourd'hui la MONUSCO, par rapport à tout ce que nous avons connu comme situation dans l'Est, et particulièrement l'accompagnement du processus de paix. Mais l'insistance que je voudrais aujourd'hui soulever, c'est sur les opérations militaires. Je pense que l'appui aujourd'hui devrait être un appui consolidé et ciblé, c'est-à-dire en lieu et place de déclarations. J'estime qu'il faudrait que, au niveau des états-majors, des forces armées de la République et des états-majors de la MONUSCO, il y ait une planification opérationnelle qui permette à ce qu'on puisse cibler les objectifs à atteindre et engager les forces en présence, particulièrement la logistique dont dispose la MONUC, qui pourrait éventuellement aider à ce qu'on arrive à l'objectif tel qu'évoqué par Mohamed Boulé, c'est-à-dire traquer et anéantir. Je pense que si la MONUSCO passe à cette phase-là, qui ne se limiterait pas à un accompagnement des opérations, je crois que l'appréciation serait tout à fait autre. Si la MONUSCO passe de la phase d'accompagnement à une phase opérationnelle, particulièrement en engageant les engins, je crois que ça nous permettrait d'atteindre l'objectif. Je sais qu'il est difficile de demander aux hommes qui sont venus de leur pays d'être sur le champ de bataille, d'être à la première ligne de front, mais au moins sur le plan logistique, je n'entrerai pas dans tous les détails qui relèvent de la défense. Je crois que si cet appui est consolidé, ciblé et orienté, ça va permettre à ce qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif qui est celui de pacifier totalement cette partie de la République.
Merci, monsieur le gouverneur. Nous tendons vers la fin de notre émission. Nous allons parler maintenant des solutions pour finalement éradiquer les phénomènes FDLR dans cette partie du pays. Mohamed Boulé, quelles solutions finalement pour mettre fin à ce phénomène? Parce qu'apparemment, toutes les opérations qu'on a menées, que le gouvernement a menées, n'a pas porté les bons fruits.
Mais, madame, vous savez, je voudrais également ajouter, parce que quand on parle de problèmes de l'Est, on a l'intention de mettre un accent particulier en ce qui concerne le Nord, Kivu, le Sud Kivu, et on parle moins de la province orientale, alors que là-bas, il y a aussi des sérieux problèmes avec les groupes LRA. Je dirais ceci. Je ne cesserai de le dire, comme les autres fois, à chaque fois que je viens d'intervenir ici. Ce problème, nous avons 10 721 km de frontières communes. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de semer la terreur sont identifiés de par leur pays d'origine. On parle rwandais, on parle des ougandais. Ce ne sont pas des congolais. Et donc, pour une meilleure planification, une meilleure coordination, nous avons un arsenal juridique au niveau de l'Union africaine avec des accords, des conventions qui sont, aujourd'hui nous étions en train d'en examiner d'autres pour pouvoir les ratifier formellement. Il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte
pour qu'ensemble nous puissions rechercher à coordonner, donc à avoir des banques de données fiables en ce qui concerne les renseignements concernant ces éléments groupes armés, soit LRA, ils sont à combien, leur type de matériel, leur zone de refuge, NALU, ADS et FDLR. Dès lors, mais il y a eu des opérations conjointes avec le Rwanda et aussi avec les PDF qui n'ont pas porté les résultats. Il y a eu aussi des opérations conjointes.
Concrètement,
il faudrait bien planifier ces opérations. Il faudrait faire tout pour avoir des données fiables en termes de renseignements. On ne peut pas aller s'hasarder à faire des opérations dès lors qu'on n'a pas les renseignements qui concernent les éléments pratiques.
Alors, on va prendre cette réaction pour vous qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Je suis Nathine de Goma au Nord Kivu. Je pense qu'il nous faut des nouvelles stratégies pour stabiliser l'est de la RDC, car nos troupes, moins encore, la MONUSCO ne réussiront pas à faire.
Les nouvelles stratégies, Mohamed Boulay.
Les nouvelles stratégies, parce que ces groupes-là, ces groupes de rebelles, on voit que leur cause politique ne se justifie pas. Ils se sont commis tout simplement en affairisme. Ils ont trouvé sur notre territoire des richesses. Ils exploitent en lieu et place des Congolais. Et donc, nous devons tout faire pour habiller les zones d'occupation effectives.
Faut-il une nouvelle stratégie, Mohamed Boulay?
Mais tout à fait, des nouvelles stratégies qui ne méritaient pas d'être dévoilées ici.
Merci.
C'est au niveau de l'état-major, c'est au niveau du haut commandement militaire et du Conseil supérieur de la défense.
Merci, Mohamed Boulay, Jean-Paul Lumbulumbu. Vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin, pour éradiquer définitivement ces FDLR qui sèment la terreur dans cette partie du pays, au nord et sud qui vous?
Je pense qu'il y a nécessité d'abord qu'au niveau de la communauté internationale, que l'opinion se souvienne qu'en 1994, lorsque la population congolaise a accepté de témoigner ou d'exprimer sa solidarité et son hospitalité au peuple frère et sœur du Rwanda, c'était dans l'objectif de les éviter un certain nombre d'exactions. Aujourd'hui, il est hors de question que la population congolaise continue à être victime de son hospitalité et de sa solidarité. Il est donc impérieux qu'au niveau de la communauté internationale, qu'on essaie de réfléchir encore une fois, parce que de nos jours, on compte des milliers de morts de Congolais de suite des actes perpétrés par les FDLR. Donc il y a une part de responsabilité de la communauté internationale qui devra revoir cette question, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui paiera la facture de ces 5 millions de Congolais qui ont été tués, et parmi lesquels la majorité n'ont été par les FDLR. Il y a des nouvelles stratégies également au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial. Je pense que la plupart des gouvernements, ou alors tous les gouvernements qui se sont succédés, ont démontré leur incapacité de résoudre de manière durable et définitive la question des FDLR. Il est question également qu'au niveau du gouvernement, les hommes politiques congolais essaient de réfléchir davantage afin de proposer au peuple congolais une solution efficace par rapport à la question des FDLR. Parce que je me rappelle que lorsque nous avons fait le référendum en 2006, la question c'était, vous votez oui, vous avez la paix, mais aujourd'hui la population congolaise n'a pas la paix.
Merci.
Donc nous proposons de nouvelles stratégies au niveau du gouvernement central et au niveau du gouvernement provincial.
Merci Vincent Lumbulumbu, je considère cela aussi comme votre conclusion. Julien Paloukou, conclusion, que faut-il faire pour amener la paix au sud, nord Kivu, et même dans la province orientale où on retrouve, il y a des groupes armés qui opèrent aussi?
La première grande stratégie, même s'il ne veut pas dévoiler toutes les stratégies, c'est d'abord de renforcer les capacités des forces armées, c'est-à-dire la formation, l'équipement et la professionnalisation de nos forces armées. La deuxième grande stratégie, c'est que nous devons promouvoir la collaboration entre civils et militaires pour que ce que Mohamed Boulay a dit, les renseignements puissent être connus à temps utile. Parce que si les civils et les militaires ne collaborent pas, si les militaires constituent des bourreaux contre les civils, et bien évidemment, il n'y a pas de renseignement. Troisième étape de réflexion, il faut poursuivre les opérations de traque contre les FDLR pour davantage les éloigner de leur centre d'approvisionnement, notamment les mines. Parce que si on ne le fait pas, ils vont continuer à avoir beaucoup d'argent et ça sera difficile. Mais à ce niveau, il faut promouvoir les rapatriements des volontaires pour que ceux qui veulent rentrer chez eux rentrent effectivement au Rwanda. Et la dernière, il faut envisager pour ceux qui veulent se relocaliser de l'être dans des pays où ils voudraient vivre aisément comme des réfugiés, ceux qui ne sont pas concernés par le génocide rwandais.
Merci Julien Paloukou. Un mot, Mohamed Boule, pour conclure.
Mais moi, là-bas, en ce qui me concerne, je dirais que les hauts commandements prennent ses responsabilités pour porter les dossiers à la connaissance du Conseil supérieur de la défense et dans le cadre de ces réformes-là, faire des planifications pour mettre fin à ces genres de tueries.
Merci, Mohamed Boulet, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Soi Congolais, Guy Mathieu Alain, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Kéline Couture vous l'a présenté. Monsal a été à la technique. Rediffusion demain, 14h, heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.